la pseudo-crise de la dette publique n'est en fait qu'un sous-produit, une conséquence, une des conséquences d'une crise bancaire, la crise de 2007 qui a éclaté avec les 10 subprimes, hein, la crise immobilière. Hein. Elle s'est transformée, cette crise immobilière, en crise bancaire, puis, moi en Europe, mais à l'échelle mondiale, en crise des commodités, et ça va repartir dans les prochains mois, je peux vous l'assurer, pour devenir ensuite une pseudo-crise de la dette souveraine. Et on peut dire, de nouveau, à qui le tour, parce qu'il est évident qu'aussi bien du point de vue des segments concernés, segments des marchés financiers concernés, que des pays concernés, je pense en particulier aux pays émergents d'Amérique latine, on peut s'attendre à ce que dans les prochains mois, cette crise qui traverse l'Europe et l'Amérique s'étende. Alors, j'ai pas le temps de développer ça, mais faites-moi confiance sur la base au moins du titre, et j'en discuterai si vous le souhaitez. En réalité, avant 2007, la crise était essentiellement une crise privée. Vous pouvez le voir dans ce graphique où, à part la Grèce, les pays européens ne souffraient pas de la dette. Si on mesure la dette publique rapportée au PIB, comme c'est un ratio traditionnel et comme on le fait, on peut s'apercevoir que ce ratio était quasiment étal dans les 10 dernières années. L'accélération, le changement brutal, vient en fait dans la crise dans la dette publique à partir de 2007. C'est confirmé, on peut quand même leur faire crédit, tant ils sont attachés à la défense des marchés financiers. C'est confirmé par une étude récente de McKinsey, hein, qui explique qu'à part l'Irlande et bien sûr la Grèce, les pays associés dans l'eurozone n'avaient pas des hauts, non pas au 1er janvier 2012, non pas de haut niveau de dette globale. Et vous pourrez voir plus en détail, si cela vous intéresse, que à la fin de 2011, la dette publique n'était toujours pas, j'allais dire, l'aspect le plus inquiétant de la crise de l'euro ou de la crise européenne. Donc encore une fois, il faut bien comprendre qu'on nous vend sous le titre de crise de la dette publique, disons une politique économique que j'ai décrite comme une politique profondément dépressive et avec des mécanismes cumulatifs vers la récession qui sont, je veux dire, plus qu'avérés, qui sont lisibles dans les rues des villes européennes ou dans les écrits des économistes critiques. Alors, c'est pas une crise de la dette souveraine, même si celle-ci s'est accélérée depuis 2007, et vous pouvez voir, en tout cas dans ce diapo et le suivant, que les facteurs de cette hausse de la crise de la dette publique depuis 2007 sont premièrement des fortes réductions fiscales, comme partout. On feint de découvrir aujourd'hui à l'OCDE qu'il y a, je crois, plus de 2000 milliards de dollars qui échappent aux États en matière de recettes fiscales parce que, de façon légale, ça s'appelle l'optimisation, les grands groupes multinationaux, puisque je travaille là-dessus, je le mentionne, arrivent à échapper à l'impôt. C'est le cas en France où la moyenne d'imposition des grandes sociétés dites du CAC 40, de la bourse, hein, ne paye en moyenne que 14% de taux d'imposition pour un taux légal de 33%. Des réductions sur les ménages aisés, la littérature sur l'extravagance de l'augmentation du revenu ou du patrimoine des 1% de la population est suffisamment documentée pour ceux que ça intéresse. Je pense aux travaux de Piketty et Saez, par exemple, pour que je ne m'y appesantisse pas. Deuxième facteur de hausse de la dette publique, c'est effectivement la surexposition des banques avant 2007 et donc le fait que les États, pour soutenir ces banques, ont massivement financé les banques en difficulté, pardon, je parlais là-dessus, avant la crise de 2007, hein, pour faciliter en fait les crédits bancaires octroyés aux ménages avec la fameuse titrisation. Eh bien, les banques, les États ont massivement soutenu ou subventionné ces crédits immobiliers. Ils ont, d'une certaine manière, participé à la crise immobilière eux-mêmes et donc, par là même, creusé leur propre déficit. Pour résumer, la crise de la dette souveraine résulte de moindres recettes fiscales ciblées sur les grandes entreprises et sur les ménages aisés, de plus de dépenses aides aux banques avant la crise de 2007 et depuis, et l'augmentation des déficits publics par suite d'une forte augmentation des taux d'intérêt. C'est un mécanisme qu'on connaît, est largement documenté dans la crise de la dette souveraine latino-américaine, qu'à partir du moment où la dette s'aggrave, les taux d'intérêt montent et ça crée des processus cumulatifs à la hausse de cette dette publique. Le deuxième point sur lequel je vais passer très vite, parce que je voudrais quand même vous parler de la réglementation bancaire, c'est que l'Union européenne est une zone d'excellence, une zone d'avant-garde, une zone leadership en matière de puissance financière, de ce que moi, dans mon jargon analytique, j'appelle le capital financier. Vous avez ici un certain nombre d'indicateurs hein, dans lesquels vous pouvez voir, en particulier dans le dernier graphique, hein, vous pouvez voir que dans un certain nombre de segments des marchés financiers, l'Union européenne possède une part de ces transactions mondiales extrêmement importantes, et en tout cas supérieures à celles des États-Unis. Bien sûr, nous ajoutons ici, ou ils ajoutent dans leurs sources, l'ensemble des pays européens, et c'est pas simple d'ajouter la City de Londres avec le marché de Francfort ou le marché de Paris, parce qu'il y a des divergences, c'est pas un pays homogène, etc. Mais vous voyez que prise comme un bloc, l'Union européenne accapare une part majeure, on va dire, hein, des transactions mondiales, par exemple, hein, sur les dérivés et les produits dérivés de gré à gré sur les taux d'intérêt, par exemple, dans les crédits bancaires internationaux, 56%, voilà ce que nous indiquent ces statistiques. En gros, hein, nous avons bien en Europe, non pas une zone qui serait soumise à une sorte de domination américaine totale ou à ce qu'en France on aime bien appeler le capitalisme anglo-saxon. Je pourrais revenir longuement sur les banques françaises si vous le voulez, hein. Mais on a bien un capitalisme financier européen, encore une fois, traversé par des rivalités nationales, traversé par des spécificités. Il ne s'agit pas pour moi de prétendre à une quelconque intégration européenne. Hein. Alors vous avez, mais je passe très vite, hein, la suite sur ce diapositive de l'importance des banques proprement dites, hein, pas simplement de la finance en général, mais des banques en particulier. Et je voudrais donc juste vous montrer, du point de vue plus analytique, comment le secteur bancaire est constitué en Europe avant de venir à la réglementation bancaire. C'est un oligopole européen avec de fortes interdépendances intra-Union européenne par au moins 5 canaux, mais on pourrait en trouver d'autres, hein, par le canal des crédits aux agents privés qui circulent de pays au pays, par le canal de la souscription de titres de la dette publique étrangère. Les banques françaises, les banques allemandes sont massivement impliquées dans le soutien, ou étaient massivement, parce qu'elles en sont retirées progressivement, dans le soutien à l'État grec par l'acquisition de titres de la dette. Même chose pour l'Espagne ou l'Italie. Donc vous avez vraiment une interdépendance qui se crée dans la mesure où les banques européennes souscrivent massivement au titre de la dette publique des autres pays. Par le développement d'un marché interbancaire très important, hein, je ne reviens pas, par la multiplication des filiales à l'étranger, vous avez ici un indicateur de la montée du nombre de filiales. Et une dernière caractéristique de cet oligopole, il n'est pas spécifique à l'Europe, et les Américains sont plus que maîtres dans cet art, hein, si j'en crois la littérature américaine sur ce point, c'est que les banques ont construit des stratégies, disons, de banques géantes, hein, de banques intégrées, de holdings, si vous voulez, hein, disons, dont la contrepartie est qu'elles deviennent, le jour où il y a une crise, où elles sont en difficulté, too big to fail. Il n'y a même pas de traduction en français, tellement ça s'est imposé dans la littérature, et cette stratégie trop grand pour périr est vraiment une stratégie politique de construction par les banques. Hein. Je donne un peu plus loin, mais je préfère le faire tout de suite. Hein. Par exemple, la compagnie d'assurance AIG, hein, qui a été quand même le détonateur ou un détonateur majeur de la crise financière aux États-Unis, a en fait fait faillite par une petite filiale de rien du tout. Mais comme elle était intégrée dans ce groupe géant, construction d'assurance AIG, à ce moment-là, effectivement, le groupe, la maison mère, a été obligé de le renflouer. Et derrière, bien sûr, très volontiers, la Banque fédérale américaine et l'État américain sont venus également pour soutenir cette compagnie d'assurance. Donc là, c'est vraiment une construction politique, hein, que too big to fail. Bien sûr, c'est une loi du capitalisme d'aller vers la concentration. C'est pas moi qui vais le nier, hein, évidemment, avec mes travaux. Mais il faut comprendre que dans les banques, si vous voulez, en particulier cette fusion de ce qu'on appelle les banques de détail ou les banques de dépôt et des banques d'affaires, c'est vraiment une construction politique pour se protéger en cas de difficulté et être à un tel niveau de puissance qu'on puisse invoquer le risque de crise systémique si jamais on ne vient pas au secours de ces pauvres banques gigantesques. Avec dernière caractéristique, un ancrage national très marqué dans les banques européennes. Là, on retrouve quelque chose qui va singulièrement compliquer l'avenir de l'union bancaire, dont je ne parlerai pas dans ma présentation, hein, mais on pourra en parler dans la discussion, qui va singulièrement compliquer la mise en place de l'union bancaire, ce vaste ensemble prévu pour harmoniser en quelque sorte le fonctionnement bancaire. Vous le voyez par différents aspects, hein, l'ancrage national, la résolution des crises a été principalement nationale, les gouvernements se sont rués vers leur propre banque pour les soutenir, ont en général demandé de rapatrier les avoirs étrangers dans le pays d'origine, en même temps qu'ils demandaient, ces mêmes gouvernements, aux filiales étrangères, aux filiales françaises par exemple, de banques étrangères, de laisser leurs dépôts en France. Donc vous voyez, une attitude vraiment contradictoire. Les autorités de supervision sont encore largement nationales, malgré la création en 2011 de l'Agence bancaire européenne. Les assurances de dépôt, elles, sont en partie harmonisées et de façon plus générale, la lutte contre la crise a été peu coopérative de la part, peu coopérative à l'échelle européenne, je veux dire, hein, de la part des gouvernements et des banques. Hein. Alors, j'en viens maintenant, juste avant de venir à la réglementation, aux politiques mises en œuvre. Hein, je passe sur le premier point qui, pour moi, est le plus important, hein, celui que j'ai dit en préambule, c'est-à-dire cette politique macroéconomique suicidaire pour les peuples, sinon pour le capital financier, bien sûr, qui en tire largement profit. Je passe rapidement sur le deuxième type de mesures, les interventions de la Banque Centrale Européenne, qui certes a une moindre dimension que la Banque Fédérale Américaine, a quand même massivement soutenu les banques privées menacées, et avec, vous le savez peut-être, l'inflexion décidée par le nouveau gouverneur de la Banque Centrale, Mario Draghi, en septembre 2012, de financer jusqu'à un certain point les titres de la dette publique. J'ai pas le temps d'expliquer, mais c'est considéré comme une rupture avec la politique jusqu'ici menée par la Banque Centrale, qui refusait de savoir ce qui se passait dans les titres de la dette publique et de s'occuper que des banques. La Banque Centrale Européenne est en train de pratiquer, comme la Banque Centrale Américaine, un rachat discret ou indirect des titres de la dette publique, pour essayer justement de soutenir l'économie. Hein. Un plan de recapitalisation par une série de mécanismes mis en place, hein, et en particulier le dernier qui a été décidé, le mécanisme européen de stabilité financière. Voilà quelques-unes des mesures qui rencontrent, malgré tout ces mesures de politique de soutien aux banques et au capital financier, une opposition pour sous deux angles, si vous voulez. La première, c'est des orthodoxes néolibéraux allemands, hein, mais il faut bien comprendre que c'est pas une obstination idéologique, c'est que ça correspond aux intérêts en partie du capitalisme allemand, qui n'a pas grand-chose à faire, enfin j'exagère un peu bien sûr, avec cette crise, hein, disons dans la mesure où effectivement c'est quand même celui qui est le plus puissant, donc à la limite il va être emporté par la crise macroéconomique si ça continue, mais en fait il s'en sortira moins mal que les autres, mais qui rencontre aussi une opposition de la part de la City de Londres, parce qu'elle estime évidemment que ce plan de soutien aux banques est trop orienté vers les banques continentales au détriment des banques de la City, puisque je vous le rappelle, l'Angleterre ne fait pas partie de l'eurozone. Hein. Alors je voudrais maintenant, dans les 10 minutes qui me restent, vous parler de la réglementation bancaire. D'abord, c'est pas propre à l'Europe, hein, ce premier point, de souligner qu'il y a une multitude de médecins qui se sont mis au chevet des malades, les banques, hein, 20-30 rapports sur comment régler mieux les marchés financiers et le système bancaire, avec des principes qui sont quand même essentiellement les mêmes pour tous ces rapports, ou leurs propositions de mise en œuvre. On peut éviter les crises systémiques, il n'y a pas de problème, le capitalisme est vraiment plus que dynamique, simplement effectivement on s'est aperçu que sur le plan de la finance il y avait ce qu'on appelle, hein, je ne développe pas ici, des crises systémiques, mais on peut les surmonter. Comment ? En renforçant l'intervention des autorités de réglementation, voire en créant de nouvelles, et en limitant autant que faire se peut l'auto-réglementation, l'auto-régulation qui avait été quand même une des grandes caractéristiques de l'avant-crise de 2007. Troisième mesure, je m'y appesantirai un peu plus dans les quelques minutes qui me restent, séparer les activités bancaires qui sont utiles pour le financement de l'économie des activités dites spéculatives, ce qui requiert, mais c'est des mesures qui sont proposées, une transparence. Si vous avez lu Frédéric Lordon, vous savez que transparence, c'est le maître mot, disons, des marchés financiers, hein, les marchés d'ailleurs eux-mêmes étant supposés assurer cette transparence, assurer une transparence plus grande. Alors, en quoi consiste, hein, maintenant j'y viens concrètement, après avoir défini ces principes, la réglementation bancaire telle qu'elle est envisagée, en fait pas beaucoup mise en œuvre pour l'instant, hein, essentiellement envisagée, il ne faut pas se tromper là-dessus. La grande mesure, encore une fois, hein, dans 20 minutes, je suis obligé de cibler, hein, et je pense que c'est celle-là qui est la plus intéressante dans un débat transatlantique, hein, c'est la séparation des activités de dépôt, donc de banque de détail, si vous voulez, hein, et dites de trading, hein, spéculative, par le cantonnement, par l'isolement, disons, de ces activités spéculatives, de façon à ce qu'elles ne contaminent pas la bonne banque de dépôt qui, elle, assure le financement de l'économie, puisque, en particulier avec ce que j'ai décrit comme des banques géantes, hein, ces holdings géantes de bancaires, c'est cette contamination qui est censée avoir posé le maximum de problèmes, parce que d'une crise financière limitée à ceux qui s'amusaient à jouer, les départements spéculatifs des banques, on est passé à la crise des banques de dépôt, et des banques de dépôt, on est passé à la crise de l'économie réelle, entre guillemets, puisque les banques de dépôt sont essentiellement financées par les salaires ou les revenus des actifs. Hein. Alors l'objectif est de fournir une garantie publique aux seules activités de financement de l'économie, bien sûr, hein, pas faire que le contribuable paye pour tous. Alors, il y a un accord général, j'y reviendrai peut-être si j'ai le temps dans les nuances, mais vous voyez que entre les trois grands types de rapports qui sont aujourd'hui proposés, la commission américaine, la commission anglaise dite Vickers, hein, la première en jaune, la commission européenne Lee Cannon et la proposition américaine Volcker, il y a cette idée. Un accord général sur cette séparation avec des nuances que je n'ai pas le temps de dire. Peut-être j'aurai le temps tout à l'heure sur un diapositif. Hein. Deuxième mesure, après la séparation des bonnes activités bancaires, des mauvaises, c'est BAL3. BAL3, c'est essentiellement, disons, de nouvelles exigences minimales de fonds propres, hein, pour limiter en quelque sorte l'effet de levier des banques. Je n'ai pas le temps de commenter ce graphique dans lequel vous pourriez voir en principe que le ratio de capitaux, de fonds propres aux actifs serait quasiment en train de doubler, hein, en gros de 7% à 14% selon certains rapports. BAL3, c'est aussi de nouvelles exigences en matière de liquidité pour permettre aux banques de faire face à une crise de liquidité, donc avec des mesures qui sont prises, mais aussi des mesures en matière de solvabilité de long terme. Je reviendrai d'un point de vue théorique à liquidité et solvabilité dans un moment. Séparation des banques de dépôt et des banques spéculatives, augmentation des fonds propres, adoption par les banques d'un coussin contracyclique, mais vous voyez déjà que le calendrier, enfin vous le voyez, je vous demande de le deviner, ce calendrier est allongé puisque les premières mesures entreront pratiquement en vigueur à partir de 2019. Hein. Alors je voudrais maintenant dans la dernière partie aborder les limites en quelque sorte de cette réglementation qui est envisagée, et que j'appelle au moins dans cette première limite l'économie politique de la réglementation. Les banquiers font de la résistance, hein, vous pouvez voir la citation d'un grand dirigeant d'une société européenne, l'industrie financière qui estime cet agenda réglementaire trop agressif et restrictif. Enfin, il y a une pression extraordinaire. J'ai lu pour un autre travail les verbatims, les procès-verbaux des débats à l'Assemblée nationale sur la loi de séparation bancaire en France, et je peux vous assurer que c'est une honte que de voir les banquiers être comme chez eux dans le Parlement français, mais bon, j'ai pas le temps de vous le raconter en détail, hein. Alors parmi les plaintes de ces banquiers, c'est que avec cette telle exigence de ratio qui de fonds propres aux actifs qui s'élèverait, ça serait beaucoup plus cher pour reconstituer ces fonds propres puisqu'il faudrait les augmenter. Alors, il y a des estimations qui varient de 338 milliards d'euros à 474 pour le Boston Consulting Group, hein, avec donc des risques d'augmentation des taux d'intérêt. Ceci vient d'être contesté à la fois par un rapport de la BIS, la Banque des règlements internationaux, de 2013, hein, rapport annuel sur 2012, et ainsi qu'en France par un rapport rédigé par un économiste français très connu dans le domaine de la banque, Paulin d'Orléans, dans un rapport du Conseil d'analyse économique. Hein. Deuxième plainte, j'allais dire jérémiade des banques, l'augmentation des ratios provoquera une diminution des actifs, donc une diminution des crédits aux entreprises, aux ménages. Et bien oui, si vous augmentez le volume de fonds propres, vous pouvez aussi diminuer le volume d'actifs, hein, vous aboutissez finalement à un ratio normal. J'appelle ça les banques votent avec leurs pieds, c'est-à-dire que ce qu'elles font déjà depuis 2008 en refusant de financer massivement l'économie, hein, en Europe en particulier, les taux de financement aux ménages et aux entreprises sont quasi, le taux de croissance est quasiment nul depuis 2008, c'est-à-dire que les banques ont touché des centaines de milliards d'euros de la Banque centrale uniquement pour les prêter souvent avec des taux d'intérêt très élevés, par exemple à l'État grec à 15%, elles ont touché ces crédits bancaires de la Banque centrale à moins de 1% de taux d'intérêt et les recyclent dans les prêts aux États espagnols, italiens, grecs entre 8 et 15%, mais elles ne prêtent pas pour l'essentiel, entre guillemets, à l'économie. Et bien c'est ce qu'elles proposent de continuer à faire. Si vous nous obligez à augmenter ce ratio de fonds propres sur actifs, bien sûr on fera l'effort de remonter les fonds propres, mais on ne pourra pas les remonter à ce point-là, donc on baissera le volume d'actifs, sous-entendu de prêts à l'économie. Réponse, y compris là, d'un rapport récent de l'OCDE, hein, par deux spécialistes de ces questions, il existe un bon désendettement, c'est effectivement pas diminuer les actifs, mais par exemple réduire les versements des dividendes, des bonus aux actionnaires et aux cadres dirigeants, et augmenter ses fonds propres, c'est quand même le métier d'une banque. Hein. Troisième critique des banquiers d'économie politique, de la réglementation, la séparation des banques est néfaste. Alors vous comprenez pourquoi ici, hein, ça vaut quand même le coup de s'y appesantir. Regardez l'augmentation des revenus, entre guillemets, des activités spéculatives, hein, c'est le trading essentiellement, hein. Dans le cas des États-Unis, je n'ai pas les chiffres sur l'Europe, vous voyez quelle part ça représentait dans le pourcentage total, je ne vais pas trop toucher ça, dans le pourcentage total de leurs revenus, c'est la barre rouge, et vous voyez combien ça représente en 2011. On comprend pourquoi les banques font de la résistance pour que l'activité de trading reste une activité logée au sein de leurs activités. C'est une part croissante de leurs revenus, elles gagnent moins d'argent dans la différence entre les taux d'intérêt auxquels elles empruntent et les taux d'intérêt auxquels elles prêtent aux ménages ou aux entreprises. Elles gagnent de plus en plus dans les activités, dans les revenus d'activités spéculatives, c'est-à-dire en servant d'intermédiaire. Hein. Alors deuxième idée, hein, j'approche de la conclusion, je rassure Dorval, deuxième idée après l'économie politique, la réglementation et l'obstination du lobby bancaire et financier à résister, il faut dire avec une forte complaisance de la part des gouvernements à la mise en œuvre de ces mesures qui sont quand même pas révolutionnaires, c'est que de façon plus théorique, j'allais dire, hein, politique économique, la séparation des activités bancaires est difficile à opérer. Par exemple, hein, je vous passe les détails des trois types de rapports, hein, que j'ai cités, américains, anglais et français, mais il y a un débat presque interminable pour savoir où est-ce qu'il faut couper entre les bonnes activités de dépôt et les mauvaises activités de trading. Donc il y a des réponses différentes, mais de façon plus générale, hein, comme le fait remarquer Laurent Scialom à l'Assemblée nationale lorsqu'elle a été auditionnée, ce sont les banques qui décident finalement de la finalité de leur intervention sur les marchés spéculatifs, hein. C'est-à-dire, est-ce que c'est une finalité pour elles-mêmes, ce qui explique leurs revenus, ou est-ce que c'est une finalité comme intermédiaire pour des entreprises qui auraient par exemple besoin de se couvrir contre des risques de change, hein, ça serait tolérable. En fait, ce découpage entre ce qui serait pour compte propre et ce qui est pour le client est absolument impossible à faire. Or, c'est souvent, en tout cas en France, un prétexte pris pour dire on va séparer les mauvaises activités spéculatives, celles qui sont pour compte propre. Parce que quand même, on ne va pas financer au prix du contribuable les risques que les banques prennent elles-mêmes pour se faire plaisir sur les marchés des produits dérivés. Par contre, on ne va pas séparer les activités pour les clients, parce que c'est des activités utiles. Si Total ou Airbus ont besoin de se couvrir sur des risques de change contre dollars, eh ben il faut bien que les banques les aident, et ça c'est quand même une activité qui finalement est indirectement reliée à de la bonne activité productive. Donc en fait, cette séparation elle est fictive, enfin elle est difficile en tout cas à faire. Hein. Deuxième critique a été faite par un économiste distingué et traditionnellement hostile à la réglementation bancaire, c'est que cette réglementation est trop complexe, ça facilitera son contournement par les banques. Hein, paradoxalement, je n'ai pas le temps de développer son idée qui est assez séduisante, c'est qu'évidemment, pas de réglementation, c'est du bonus pour les banques, mais trop de réglementation, ça devient tellement compliqué que finalement, les banques peuvent toujours obtenir des loopholes, des failles, hein, dans le système, et précisément, une des critiques est faite à Bâle 2, c'est en particulier celle-ci, et Bâle 3, à force d'entasser, si vous voulez, la précision, va en fait faciliter ou pourrait faciliter le contournement par les banques de ces réglementations trop tatillonnes, en quelque sorte. Hein. C'est ce que cet auteur appelle la dialectique de la réglementation. Hein. Je passe sur ce diapo, Eric, il reviendra sans doute, hein, et moi j'y reviendrai si c'est nécessaire, mais c'est simplement pour montrer que sur ce découpage, hein, il y a une difficulté difficulté à savoir où il faut découper les bonnes activités des mauvaises. Hein. Je liste simplement, mais pour pas faire doublon, probablement, je passe, et puis par manque de temps, je passe là-dessus, mais vous voyez que en fait, il y a des différences, et selon Gaël, un très très bon article de Gaël Giraud, qui a été auditionné à l'Assemblée nationale, hein, il se présente comme jésuite économiste, il est au CNRS, et très très bon économiste, il dit en gros, quoi, le projet de loi français cumule les défauts des trois autres projets, quoi. Puisqu'en France, vous le savez, il y a actuellement une loi de séparation bancaire entre banque de dépôt et banque d'affaires. Alors, de fait, hein, les résultats sont là, et l'économie politique de la réglementation et la difficulté de dissocier, etc., fait que finalement, hein, voilà le résultat, hein, ça c'est le résultat aujourd'hui, à 2013, hein, l'industrie financière obtient une réforme à minima. Aux États-Unis, il y a une large littérature qui documente ça, hein. Regardez ce que Krugman dit, disons, de cette réforme, et en particulier des réglementeurs, hein. Je vous le laisse traduire, je pense que vous êtes plus anglophone que moi encore. Hein. En France, à l'Assemblée nationale, ça a provoqué un scandale. Les banquiers eux-mêmes de la Société Générale UDA ou celui de Paribas ont expliqué que finalement la loi ne porterait que sur entre 1,5% et 2% de leurs activités totales. Vous voyez comment on va s'attaquer au lobby bancaire en ciblant 1,5% à 2% de l'ensemble de leur activité. Et une troisième illustration, je ne dirais pas de l'échec puisque ce n'est pas encore mis en œuvre, mais des limites à prévoir à cette réglementation que 20, 30, 40 rapports couvrent depuis 2009. Enfin, on va s'attaquer à la crise financière, c'est que le shadow banking, c'est ce financement non bancaire, non intermédié par les banques, qui a été considéré comme une des causes de la crise, et je vous rappelle que les banques participent aussi au shadow banking avec des filiales qu'elles ont créées ad hoc, eh bien ce shadow banking, a cessé de prospérer, et donc voilà les derniers chiffres qui sont donnés par le rapport de stabilité financière européen, c'est qu'il est passé de plus, il est augmenté de 5 à 6 000 milliards de dollars entre 2011 et 2012. Pour l'instant, le système financier peut dormir sur ses deux oreilles. Alors, je voudrais conclure, c'est vraiment la conclusion sur les enjeux théoriques que ça pose derrière. Hein. La première question, je ne veux pas l'aborder parce que c'est presque une conférence en elle-même, mais j'espère qu'on en rediscutera, et de toute façon j'ai même préparé éventuellement un transparent à cet usage, c'est comment séparer les activités utiles à l'économie et spéculatives. Hein. Je n'ai pas le temps de m'apesantir là-dessus, mais il est évident qu'au sein des banques, juste pour éclaircir et ouvrir une voie de réflexion si ça vous intéresse, vous avez au sein des banques une multiplication de fonctions qui sont centrales dans le capitalisme, celle d'assurer les moyens de paiement, qui n'ont rien à voir avec la spéculation, qui serait le M1 de la masse monétaire, celle d'assurer des crédits, qui pour les banques sont du capital-argent, pour parler un langage à la marque, c'est-à-dire c'est de l'argent qu'elles prêtent, et donc on peut comprendre que quand elles créent des crédits, c'est autant de capital-argent de prêts qu'elles ouvrent à l'économie. Et puis vous avez une troisième dimension qui sont les marchés financiers, qui sont, je n'ai pas le temps de développer non plus, de pure création institutionnelle, qui centralisent en fait des promesses. Ce que Marx a des promesses, si vous voulez, hein, des droits de tirage sur la richesse à venir, du capital fictif pour Marx, de la spéculation pour Veblen et pour Keynes. Enfin, j'ai pas le temps de développer, mais les banques concentrent l'ensemble de ces déterminations. Et donc, la séparation entre banques de dépôt finançant des activités bonnes pour l'économie et le reste est quelque chose qui est presque impossible à faire, d'un point de vue théorique, entre guillemets. Enfin, je veux dire, il faut des mesures politiques extrêmement importantes sur lesquelles je vais conclure. Hein. Comment distinguer crise de liquidité et crise de solvabilité? Je passe pour respecter mon temps de parole, mais c'est vraiment un des grands dadas de la crise financière de montrer que ce qui s'appelle au départ une crise de liquidité devienne une crise de solvabilité. Et moi, je dirais, dans un texte que j'ai déjà écrit en 2009, que la crise de solvabilité, c'est finalement une crise de liquidité qui a mal tourné, c'est-à-dire c'est indissociable. Hein. Alors, je voudrais juste, vraiment là c'est le dernier, vous montrer qu'il y a des mesures alternatives qui sont prises. Hein. Premièrement, c'est de muscler encore plus les contrôles réglementaires. Hein. Donc par exemple, les réglementeurs devraient être comptables de leurs actes devant les citoyens contribuables. Ils devraient pouvoir assumer financièrement la responsabilité de leurs carences réglementaires. Je parle des réglementaires eux-mêmes. Multiplier les institutions de réglementation pour éviter la capture du régulateur. Comme par hasard, le président de la Banque de France s'est prononcé contre dans une audition à l'Assemblée nationale. nationale. Vous savez que c'est une préconisation de multiplier les réglementeurs pour qu'en quelque sorte ils se fassent concurrence et qu'il y ait moins, si vous voulez, de capture, c'est comme ça qu'ils parlent ces gens-là, du réglementeur par les agents eux-mêmes, par les marchés eux-mêmes, hein. Création d'institutions en charge de mesures de la qualité, voilà un premier type de mesure qui muscle la réglementation. Un deuxième type de mesure, c'est d'aller déjà un peu plus loin, c'est de transformer en quelque sorte le paysage bancaire en l'obligeant à accentuer ses activités utiles pour l'économie en fonction, disons, des nouveaux critères de développement soutenable, etc., mais qui serait une vraie imposition vis-à-vis des banques de dépôt, ce qui tendrait à limiter leurs activités spéculatives. Et puis troisième, nationalisation des banques défaillantes, constitution d'un pôle bancaire public européen, contrôle démocratique des banques, participation des salariés, des collectivités publiques aux instances de décision et de contrôle des banques commerciales et centrales. Ce dernier diapo, c'est ATTAC en particulier qu'il propose, mais bien sûr, il s'appuie sur des travaux scientifiques des économistes européens critiques.